à Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kabadou avec vous en direct de Washington. Il est 17h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du mercredi 26 juin 2019. Et au sommaire ce soir, les incursions de Boko Haram dans l'extrême sud-est du Niger ont fait au moins 140 morts les 5 premiers mois de l'année. En Éthiopie, des dizaines de milliers de personnes ont rendu un dernier hommage aux responsables assassinés samedi dans une tentative de coup d'État. Human Rights Watch accuse Yahya Jammeh, l'ex-président gambien, de violences sexuelles. Poursuite des témoins, des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Téhéran menace de ne plus respecter les termes de l'accord de Vienne sur son programme nucléaire. Ne manquez pas le journal de la CAN, mais tout d'abord le journal. Dans la région de Difa, dans le sud-est du Niger, selon un rapport de l'ONU, plus de 140 civils ont été tués au cours des 5 premiers mois de l'année suite à des incursions du groupe Boko Haram. Morgane Guiriec.
Depuis mars, le nombre des attaques contre les civils est en hausse. Plus de 140 civils ont été tués au cours des 5 premiers mois de cette année, soit le double des civils tués en 2018, selon le Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies. Les dernières attaques menées par des assaillants armés entre le 18 et le 19 juin dans différentes localités ont fait 6 morts, 4 personnes déplacées et 2 réfugiés dans le département de Bosso. Difa abrite depuis 2015 plus de 300 000 réfugiés et déplacés à cause des attaques de Boko Haram. En plus des attaques meurtrières généralement attribuées à Boko Haram par les autorités, Difa est confrontée aux rapts de civils dont la plupart sont relâchés après le versement d'une rançon.
En Mauritanie, le pouvoir affiche sa volonté d'empêcher toute contestation dans la rue de la victoire annoncée de son candidat à l'élection présidentielle. Le pays est toujours totalement privé d'Internet après une vague d'arrestations d'opposants, dont une centaine d'étrangers. Le scrutin du 22 juin doit marquer la première transition entre deux présidents élus dans ce pays du Sahel, secoué par de nombreux coups d'État de 1978 à 2008. L'ONU a appelé mercredi les Ivoiriens à redoubler d'efforts pour que la présidentielle de 2020, qui s'annonce tendue selon de nombreux observateurs, soit synonyme de paix. Tout le monde doit redoubler d'efforts pour que le prochain scrutin présidentiel soit synonyme de succès, de paix pour tout le peuple ivoirien, a déclaré l'émissaire du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, à l'issue d'un entretien avec le président Alassane Ouattara. L'ancien président Yahya Jammeh est accusé par 3 Gambiennes de les avoir contraints à des relations sexuelles en usant de pression morale, financière ou physique lorsqu'il dirigeait le pays. C'est ce que révèle Human Rights Watch dans un rapport présenté ce mercredi au Sénégal. Les précisions de John Lyndon.
Yahya Jammeh a traité les femmes gambiennes comme ces choses, explique Reid Brody, avocat américaine de Human Rights Watch. Il ajoute que le viol et l'agression sexuelle sont des crimes et donc que Jammeh n'est pas au-dessus de la loi. L'ex-président gambien et ses collaborateurs ont eu recours à la coercition, à la tromperie et à la violence pour obtenir des faveurs sexuelles ainsi qu'à des représailles lorsque les femmes refusaient ses avances, accuse l'enquête menée avec l'ONG suisse Trial International. En décembre 2014, Fatou Diallo, dite Toufa, alors étudiante en art dramatique, alors âgée de 18 ans, élue Miss Gambie, a par exemple été invitée plusieurs fois au palais présidentiel par Yahya Jammeh, qui lui aurait couverte de cadeaux. La jeune fille a choisi de témoigner à visage découvert depuis le Sénégal, où elle a trouvé refuge. Les défenseurs des droits humains accusent le régime de l'ancien président d'actes systématiques de torture contre des opposants et des journalistes. Depuis qu'il a quitté le pouvoir, Yahya Jammeh vit en exil en Guinée équatoriale.
Les douanes sénégalaises ont annoncé avoir mis la main sur 238 kilos de cocaïne cachée dans des véhicules neufs sur un bateau au port de Dakar, une drogue venant du Brésil et qui avait pour destination l'Angola. En République démocratique du Congo, un groupe extrêmement violent d'assassins est à l'origine des massacres en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'affirme la mission de des Nations Unies au Congo, la MONUSCO. Des dizaines de civils, au moins 160 d'après le gouverneur, ont été tués début juin en Ituri, où des milliers de personnes ont fui les violences. Au Malawi, la Cour constitutionnelle a commencé à examiner les recours déposés par l'opposition afin d'obtenir l'annulation pour fraude de l'élection présidentielle. présidentielle du 21 mai dernier, repoussée de justesse par le sortant Peter Mutharika. D'importants effectifs des forces de l'ordre ont été déployés autour du siège de la cour dans la capitale afin d'éviter tout incident. De nouvelles protestations sont programmées les 4 et 5 juillet par un collectif de la société civile. Au Zimbabwe, un enseignant a été suspendu de ses fonctions pendant 3 mois pour avoir dénigré le président Emmerson Mnangagwa lors d'une conversation de comptoir avec un militaire. C'est ce qu'a annoncé une ONG zimbabwéenne. En Éthiopie, les autorités et des milliers de personnes ont honoré dans leur région natale les hauts responsables assassinés samedi. Ces événements ont été qualifiés de tentatives de coup d'État. Abdourahmane Dia.
À Bahir Dar, la capitale régionale, des dizaines de milliers de personnes sont venues au stade, drapées pour la plupart dans des tissus traditionnels blancs. Elles sont venues rendre un dernier hommage à Ambatieu Mekonnen, le président de la région Amara, un de ses conseillers et le procureur général, qui ont été tués samedi par un commando armé. Nous nous souviendrons pendant des générations de ceux qui sont tombés pour leur contribution à la région et au pays, a déclaré le vice-premier ministre Demeke Mekonnen. Nous découvrirons les mobiles et les intérêts de ceux qui ont commis cet acte barbare, a-t-il ajouté. À plusieurs centaines de kilomètres de là, à Mekele, dans le nord, des milliers de personnes sont venues honorer le chef d'état-major de l'armée nationale, tué samedi par son garde du corps à son domicile d'Addis Abeba. Les assassinats de ces 5 hauts responsables ont plongé l'Éthiopie dans l'émoi. Selon les autorités, il s'agit d'une tentative de coup d'État contre le gouvernement de la région Amhara, une des 9 régions du pays.
Au Kenya, le Tribunal national de l'environnement a ordonné l'arrêt du projet controversé de construction d'une centrale de production électrique à charbon sur l'archipel de Lamu, un site inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial. Le juge a ordonné que soit recommandée l'étude d'impact sur l'environnement de ce qui devrait devenir la première centrale au charbon d'Afrique de l'Est. En Libye, la pénurie d'électricité s'est encore aggravée à Tripoli en raison de la canicule et des combats au sud de la capitale qui ont endommagé une infrastructure déjà vétuste. Les violences empêchent l'exécution de nouveaux projets d'électrification par des entreprises étrangères évacuées avec le début des offensives du maréchal Haftar, selon un responsable de la GECOL.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Aux États-Unis, 10 candidats démocrates à la Maison-Blanche s'affrontent ce soir pour la première d'une série de débats télévisés. Elizabeth Warren, la sénatrice pourfendeuse de Wall Street, âgée de 70 ans, devance de loin les autres candidats qui partageront le plateau avec elle ce soir à Miami, en Floride. L'affiche du deuxième débat demain soir sera plus relevée avec les deux premiers dans les sondages, l'ancien vice-président centriste Joe Biden et le socialiste Bernie Sanders. Donald Trump, le président républicain, s'est dit peu impressionné, soulignant que le premier débat serait diffusé pendant qu'il volerait vers le Japon pour un sommet, le sommet du G20. Alors que les tensions vont crescendo entre l'Iran et les États-Unis, le guide suprême de la révolution islamique, l'ayatollah Ali Khamenei, indique que le peuple iranien ne cédera pas face aux pressions américaines, tandis que le président Hassan Rouhani joue la carte de l'apaisement. Raïssa Girondin.
Le président iranien Hassan Rouhani a assuré que son pays ne cherche la guerre avec aucun pays, États-Unis y compris, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue français Emmanuel Macron. Il a toutefois répété la déception des Iraniens face à ce que Téhéran estime être l'inaction des Européens sur la question de l'accord de Vienne, conclu en 2015. Un accord fragilisé depuis que le président Donald Trump en a sorti unilatéralement les États-Unis. Au lendemain de l'annonce de nouvelles sanctions américaines visant le sommet du pouvoir iranien, l'ayatollah Ali Khamenei a indiqué que le peuple iranien ne cédera pas et ne capitulera devant de telles insultes et qualifiant les sanctions de cruelles. Fin de citation. Ces nouvelles mesures viennent s'ajouter à une spirale d'accusations et d'incidents. Au début du mois, 2 pétroliers ont subi des attaques d'origine inconnue près du détroit d'Ormuz. Le 20 juin, l'Iran a abattu un drone américain. Téhéran menace de ne plus respecter à partir de demain les limites sur l'enrichissement de son uranium. C'est dans ce contexte que se tiendra vendredi et samedi le sommet du G20 à Osaka, au Japon.
Une cigarette mal éteinte ou un dysfonctionnement électrique, plus de 2 mois après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les enquêteurs privilégient la piste de l'accident que des investigations désormais menées par des juges d'instruction doivent permettre de préciser. La cathédrale gothique, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est vieille de plus de 850 ans, a perdu une partie de sa voûte ravagée par les flammes le 15 avril dernier. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur voafrique.com. Place à présent au journal de la CAN avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ekia, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le journal de la CAN. Le Nigeria est le premier qualifié pour les 8e de finale. Les Super Eagles ont pris le dessus sur le Sili National de la Guinée 1-0. C'est la deuxième victoire pour le Nigeria après son succès sur le même score au premier match devant le Burundi. Le deuxième match oppose présentement l'Ouganda au Zimbabwe. Le score est de 1-0 en faveur des crânes de l'Ouganda. Un but inscrit depuis la 12e minute par Emmanuel Okwara. Mais le choc de la soirée aura lieu à 20h temps universel entre l'Égypte et la RDC. L'Égypte jouera sans Amr Warda, exclu de la sélection en raison d'accusations de harcèlement sexuel récemment apparues à son encontre. L'ailier gauche de 25 ans est mis en cause par plusieurs femmes qui affirment avoir été harcelées par lui sur Internet et ont posté en début de semaine des captures d'écran de commentaires attribués à l'international égyptien. Celui-ci avait déjà vu son prêt avec le club portugais de Ferencvaros être rompu en août 2017 pour de pareilles accusations de harcèlement à l'encontre des épouses de deux de ses coéquipiers. Cette situation pourrait peut-être profiter aux Congolais. Face aux pharaons, les léopards de la RDC voudront se racheter après leur faux pas d'entrée devant les Ougandais depuis le Caire. Nous retrouvons Jonathan Massiala de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Gagner pour se relancer, tel sera l'objectif de la RDC ce mercredi en affrontant l'Égypte en match comptant pour la deuxième journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Battu lors de la première journée par les Ougandais sur le score de 2-0, les Congolais devront être meilleurs sur tous les plans pour ne pas perdre face au pays organisateur, a dit en conférence de presse d'avant-match Jean-Florent Ubengue, coach principal de la RDC.
C'est un autre match, il faudra l'aborder différemment, déjà au niveau de l'envie pour pouvoir rivaliser face à cette équipe.
Les Égyptiens, quant à eux, comptent maximiser leurs chances de qualification devant leur public en enregistrant une deuxième victoire de suite ce mercredi face à la RDC, en croire leur coach, l'Espagnol Javier Aguirre. Tout ce que nous voulons demain, c'est d'engranger le plus grand nombre de points possible face à la RDC. Égypte-RDC, coup d'envoi du match ce mercredi à 20h, temps universel. Depuis le Caire, Jonathan Massiala de Top Congo FM pour VOA Afrique.
RDC Égypte, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonsoir. Lors de l'édition de 2015, qu'il a vu finir avec le même effectif sur le podium, juste après la Côte d'Ivoire et le Ghana, la RDC avait laissé l'image d'une équipe dotée d'une puissance offensive considérable et produisant un jeu spectaculaire grâce à des talents hors normes en attaque. 4 ans après, le groupe n'a pas fondamentalement changé, l'entraîneur non plus, mais les résultats sont décroissants. Un coup d'arrêt face au Ghana en quart de finale il y a 2 ans, une qualification en Coupe du Monde vendangée contre la Tunisie à domicile alors que la Russie lui tendait les bras, puis cette deuxième place miraculeuse derrière le Zimbabwe pour le voyage en Égypte qu'on n'espérait plus. On le voit, la défaite d'entrée face à l'Ouganda samedi n'est qu'une demi-surprise qui met les léopards au pied du mur avant la capitale rencontre contre le pays organisateur ce mercredi. Pour expliquer la contre-performance devant l'Ouganda, Florent Ibengue a honnêtement reconnu, je le cite, la faillite collective des joueurs. De plus, les léopards ont trop confiance en leur qualité créatrice et ne tiennent pas assez compte du jeu de l'adversaire pour préparer leur tactique. Ce péché d'orgueil a été fatal contre l'Ouganda. On est ici loin des qualités de malice, d'engagement et de mental qui faisaient la force du football zaïrois d'antan. Contre l'Égypte ce mercredi, il faudra oublier le premier match et retrouver ses qualités. Rien n'est perdu pour les léopards, ni gagné pour les pharaons. Leur sort respectif est entre leurs pieds.
Et donc le Zimbabwe qui a entre-temps égalisé dans le match en cours face à l'Ouganda. Et donc le score est désormais de 1-1. Et hier, dans le groupe F, on a disputé les derniers matchs de la première journée. Et dans la première rencontre, les Lions indomptables du Cameroun ont défait les Bissau-Guinéens 2-0. Un score bien sûr qui permet aux champions en titre sortant de se maintenir dans cette compétition en attendant le deuxième match. C'est tout pour ce journal des sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, et Picabadou toujours en votre compagnie, place à présent au dossier du jour. En Mauritanie, une centaine d'étrangers ont été arrêtés pour, dit-on, avoir participé aux manifestations post-électorales. Internet est coupé et le climat reste tendu dans le pays car l'opposition continue de contester la victoire du candidat du parti au pouvoir à l'élection de samedi dernier. Bagassi Koura a joint à Nouakchott Mohamed Diop, notre correspondant en Mauritanie.
Il y a parmi eux 43 Sénégalais, 39 Maliens, 10 Guinéens, 3 Gambiens, 2 Ivoiriens et 2 Nigériens. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir donc participé, et certains, en tout cas selon les autorités mauritaniennes, les ministres de l'Intérieur, ils ont participé activement dans les manifestations. Et leur, en tout cas, président d'association, eux, ils disent qu'ils étaient dans les places au mauvais moment, en tout cas.
Et c'est pourquoi les ambassadeurs du Sénégal, du Mali et de la Gambie ont été convoqués par le ministère de l'Intérieur?
Oui, effectivement, les trois ambassadeurs ont été convoqués hier pour leur faire part de l'information et de leur dire aussi, de dire à leurs ressortissants de faire preuve de prudence et de ne pas s'ingérer dans ces manifestations et autres. Aujourd'hui, par exemple, l'ambassade du Sénégal a fait une réunion avec sa communauté pour passer l'information et leur demander surtout demain de descendre très tôt de leur travail pour ne pas, parce que demain il y a une manifestation prévue par l'opposition. Et je veux juste ajouter qu'en termes de sanctions, les étrangers qu'on a arrêtés, le ministre a dit qu'ils seront fichés, mais également expulsés de sorte qu'ils ne pourront plus revenir en Mauritanie.
Alors, on nous dit aussi qu'Internet est coupé. Est-ce que c'est toujours le cas?
Oui, c'est toujours le cas. Avant, c'était Internet mobile seulement qui a été coupé, mais depuis hier, ADSL également est coupé. Donc, c'est le blackout. Il n'y a plus d'Internet du tout en Mauritanie.
Les trois candidats de l'opposition ont introduit ce mardi un recours en annulation du scrutin devant le Conseil constitutionnel. Quelles sont leurs chances?
Bon, quelles sont les chances? Difficile à dire maintenant. Depuis que la CENI, en tout cas, a confirmé presque les mêmes chiffres que le général Ndouka Zouani, qui s'était autoproclamé vainqueur avec 52% des voix. La CENI, d'ailleurs, a majoré un peu ses 52% des voix. Alors, ce sera difficile que, même s'il y aura peut-être des irrégularités que le Conseil va constater, mais que ces résultats, déjà pour l'année, s'ils soient changés, ce serait un peu difficile.
Mohamed Diop, notre correspondant en Mauritanie.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, le service militaire obligatoire peut-il être une solution à l'incivisme? Au Sénégal, des généraux à la retraite proposent le service militaire obligatoire après le bac pour recadrer l'indiscipline et l'incivisme des citoyens. Les jeunes constituent la majorité de la population. Les États africains peuvent-ils rendre le service militaire obligatoire? Les militaires sont-ils exemplaires en matière de civisme? Morgane Guiriec en votre compagnie, réagissez en direct à 18h05 temps universel en appelant le 001 202 205 26 33. Commentez et laissez vos numéros sur notre page Facebook, nous vous rappellerons.
Contentieux électoral en République démocratique du Congo après les manifestations de l'opposition suscitées par les arrêts invalidant une vingtaine de députés de la coalition de la coalition Lamouka. La Cour constitutionnelle a créé une chambre spéciale avec pour objectif de rectifier les erreurs matérielles qui auraient entaché les arrêts rendus par les juges. Cette chambre a organisé 3 jours d'audience et vient de transmettre ses conclusions au juge de la Cour. Les arrêts définitifs sont attendus dans les tout prochains jours. Reportage de Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
167 dossiers en rectification ont au total été introduits dans cette chambre spéciale, pour la plupart par les députés de la plateforme de l'opposition Lamouka. La mission de cette chambre spéciale de la Cour constitutionnelle est de rectifier les erreurs matérielles dans les arrêts invalidant plusieurs députés nationaux. Quel crédit la population accorde-t-elle au travail de cette chambre spéciale après le tollé provoqué par quelques arrêts de la Cour constitutionnelle en défaveur de l'opposition? Des Kinois interrogés par votre radio ont répondu à cette question.
Bon, ce que j'attends est que la Cour doit procéder de la bonne manière. Il ne doit pas avoir de parti pris, être corrompu, c'est-à-dire qu'il doit dire clairement les droits. Si c'est lui qui a plus de voix, il mérite d'être validé.
En tout cas, moi, en tant que Congolais, je n'entends de rien. Donc, il n'y a rien de bon là-bas. C'est aux députés qui étaient invalidés. Les patientés, ils auront la chance peut-être d'être élus par le peuple congolais avec un autre CENI. On attend les vrais cours qui seront installés par le nouveau président.
C'est une occasion pour la Cour de soigner son image parce que les erreurs commises il y a 2 ou 3 semaines ont été criantes. Les gens ont marché. Le peuple congolais commence à perdre la confiance envoyée à la Cour parce que ces invalidés-là ont été votés par les peuples.
La Chambre spéciale de la Cour constitutionnelle a terminé l'examen de toutes les requêtes. Il ne reste plus que la proclamation par les juges. Juge des résultats définitifs, affirme Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe.
La Cour a examiné les requêtes introduites. Les avocats ont été entendus. Le ministère public a donné ses avis. Maintenant, nous sommes au stade d'attente de ce que nous dira la Cour par rapport à ces nouveaux arrêts introduits, à cette nouvelle instruction, à tous ces avis qui ont été donnés.
À l'opposition, on se satisfait également du déroulement de ces audiences et on espère réparation. Chérubin Okende est l'un des députés de l'opposition invalidés par la Cour constitutionnelle.
La Chambre spéciale a été effectivement instituée et les audiences ont eu lieu régulièrement, donc toutes les parties ont comparu. Il y a aussi les avis pertinents du ministère public. En ce qui nous concerne dans l'opposition, 98% de requêtes ont été jugées recevables et fondées. Et maintenant, nous sommes en train d'attendre le verdict des juges eux-mêmes qui vont prendre ces affaires-là en délibéré et puis nous communiquer leur décision finale.
Satisfaction également au Front commun pour le Congo du vice-ministre honoraire Papi Mantezolo, élu de la province du Congo central.
Cette chambre spéciale est en train d'évoluer très bien. La manière que je vis les différents débats, les différents avis du ministère public, je pense qu'on va redorer l'image de cette Cour constitutionnelle.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Au Gabon, l'examen du bac débute ce mercredi. Plus de 20 000 candidats sont en lice pour cet examen. Parmi eux, et c'est une première dans le pays, 9 détenus sont autorisés à participer aux épreuves. Écoutez ce reportage à la prison centrale de Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
Dans la petite salle de réunion du service social de la maison d'arrêt de Libreville, les candidats sont assis côte à côte pour les dernières révisions avant le coup d'envoi des épreuves. Le premier, que nous appelons Tristan pour protéger son anonymat, est un jeune détenu de 22 ans qui passe son baccalauréat série B en cellule.
Je n'ai pas eu vraiment la chance de le faire à l'extérieur. Et ici, le corps pénitentiaire m'a permis de passer mon bac en détention.
Qu'il soit candidat au baccalauréat ou candidat du brevet d'études du premier cycle en attente des résultats, ils bénéficient tous d'un programme gouvernemental de réinsertion des détenus en milieu carcéral. À 38 ans, Titis, c'est pas son vrai nom, est le doyen des candidats de la prison centrale de Libreville.
C'était une expérience assez riche, très 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 émouvant dans la participation et l'organisation qui s'est faite. Nous sommes sereins quant aux résultats qui vont arriver parce qu'on a eu un programme assez affiné avec des professeurs qu'on a eu ici en détention, avec l'appui de la direction.
Un programme spécial a été mis en place pour ces détenus candidats aux examens nationaux. Capitaine Louis-Marie Fouault, directeur adjoint de la prison centrale, chargé de l'administration.
Nous avons permis que les élèves incarcérés puissent avoir un petit allègement au niveau du règlement de la prison. C'est ainsi que nous avons mis en place à l'intérieur un système d'études surveillées. Tous les 18 heures, ils sortent de leur cellule. Nous avons une grande salle à l'intérieur de la détention. Ils se mettent là avec les professeurs. Il faut signaler au passage que nous avons eu un apport important des professeurs qui, eux aussi, sont en conflit avec la loi.
Ils étaient au total plus d'une vingtaine de candidats, mais à l'arrivée, une dizaine a réussi au test de présélection. Lieutenant-colonel Gabriel Assumela, directeur de la prison centrale de Libreville.
L'équipe des surveillants a procédé à un petit concours et on a retenu 10. Sur les 10, il y a eu un qui a désisté. Donc, en tout cas, ils sont allés 9 jusqu'à la fin des cours. La prison n'est pas une fin en soi. Et les personnes qui sont placées sous notre responsabilité, nous devons tout faire pour leur faire comprendre qu'à la fin de la prison, ils sont capables de reprendre leur vie normalement pour le bien de notre pays. Le ministre m'a demandé de mettre un projet en place. Donc, je dois tout faire pour que ça soit opérationnel.
Libreville, Ismaël Obionze, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Les Palestiniens protestent contre une initiative américaine annoncée hier à Bahreïn dans le cadre d'un nouveau plan de paix piloté par Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain. Les Palestiniens ont boudé la conférence à Manama et il y a eu des manifestations de colère dans plusieurs villes du monde arabe. Le point avec Lionel Gaïma.
Les Palestiniens ont affronté les forces israéliennes et ont brûlé les effigies du président Donald Trump. Ils dénoncent le plan appelé « Paix pour la prospérité » qui se donne l'objectif ambitieux d'investir 50 milliards de dollars dans les territoires palestiniens et les États arabes voisins. C'est le volet économique d'un nouveau plan de paix américain dirigé par Jared Kushner, gendre du président Trump et conseiller de la Maison-Blanche.
Mon message direct au peuple palestinien est que malgré ce que disent ceux qui vous ont laissé tomber dans le passé, le président Trump et l'Amérique ne vous ont pas abandonné.
Jared Kushner a dévoilé ce plan lors d'une conférence à Bahreïn en l'absence des responsables palestiniens ou israéliens. Le financement viendrait principalement de pays du Golfe sous forme de subventions et des fonds privés et on ne sait combien fourniront les États-Unis. Le président Trump est resté évasif sur le sujet.
Nous devons obtenir un soutien économique parce que les Palestiniens n'ont pas d'argent et nous devons les aider avec un peu d'argent. Et l'un des groupes que vous avez, ce sont ces pays du Moyen-Orient qui ont de l'argent, donc ont un rôle à jouer dans ce plan de paix.
Ce qui n'a pas convaincu tout le monde, Zaha Hassan est membre du réseau politique palestinien Al-Shabaka.
Vous avez toutes ces choses qui doivent être financées. Les Israéliens ne sont pas là, les Palestiniens non plus, et personne avec de l'argent ne viendra le déposer à cette conférence.
Les Palestiniens ont rejeté ce plan car selon eux, il ne répond pas à la création d'un État palestinien et ne règle pas le statut de Jérusalem et le sort des réfugiés. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne.
Ce n'est que lorsqu'il y aura une solution politique sur la base du droit et la vision des deux États que nous pourrons accueillir ceux qui veulent nous aider à Manama ou ailleurs.
Par contre, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s'est dit plutôt ouvert.
Je ne comprends pas comment les Palestiniens peuvent rejeter catégoriquement un plan avant même de l'avoir entendu. Ce n'est pas une façon de procéder.
Bon nombre de projets de ce plan dépendront d'un accord de paix israélo-palestinien. Les autorités américaines ne vont publier la composante politique de ce plan qu'en novembre, après les élections israéliennes, ce qui peut être aussi une erreur de calcul. Zahan Hassan du réseau Al-Shabaka.
Si nous ne savons pas où se trouvent les terres palestiniennes, où se situent les frontières. Aucun de ces projets n'est réalisable et ils sont comme une sorte de chimère que la Maison-Blanche affiche sans aucune idée sur la façon de les faire avancer.
Le manque d'implication des Palestiniens et des Israéliens met en lumière la difficulté de l'administration Trump à relancer les efforts de paix bloqués depuis longtemps.
Si C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À la mise en onde, Joselle Morissin, également Patrice Déa, et à la présentation, Ekia Badou. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour une actualité 24 heures sur 24. Excellente suite de programme à l'écoute de VOA. Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les infos.